Gros jeune qui pense, toutes les religions se valent-elles? Comment, tout en étant très tolérant vis-à-vis des autres religions, j'ai moi-même fondé à Douai une amitié judéo-chrétienne pour que les chrétiens et les juifs apprennent à mieux s'estimer, se comprendre et s'aimer. On peut fonder une amitié judéo-chrétienne et croire tout à fait que Jésus est le Messie, fils de Dieu, ce qui est nié par des juifs beaucoup plus intelligents que nous. Grand problème sur lequel a buté l'abbé Pierre en seconde. Il faut bien voir que vos jeunes butent sur ces questions-là. Ce n'est pas pour le plaisir de faire des conférences qu'on fait ça, c'est pour aider l'évangélisation. Comme dit saint Pierre, nous devons être prêts à rendre compte de notre foi tout en sachant qu'il ne suffit pas de le faire pour que les gens y croient. Toute une série de belles questions sur Jésus. Jésus est un homme, vrai Dieu et vrai homme. Il a donc une nature humaine. Il a même une âme humaine. C'est formidable pour notre prière. Quand vous êtes devant le Saint-Sacrement, par exemple, quand vous êtes dans une chapelle devant un tabernacle, Jésus, qu'est-ce qu'il fait au tabernacle? Il ne s'ennuie pas, vous savez, qu'est-ce qu'il fait? Il adore son Père. Vous l'adorez, et vous avez bien raison, il est notre Seigneur et notre Dieu. Mais lui, il a une âme humaine, et il adore son Père. Ces temps-ci, j'ai rencontré des personnes qui avaient passé 40 ans à prier devant le Saint-Sacrement. Elles ont eu l'humilité de dire devant tout le monde, je n'y avais jamais pensé, c'est dommage. Quand vous assistez à une Eucharistie, quel est celui qui prie le mieux? Il n'est pas dans la nef, c'est pas l'animateur de chant, c'est pas le prêtre, c'est Jésus. Moi j'ai appris ça, vous voyez, à 8 ans j'avais déjà compris ça. Et pourtant c'était en latin, mais on nous avait expliqué. Per ipsum et cum ipso et in ipso. J'ai de la chance d'avoir été élevé très très bien. On m'a tout expliqué quand il le fallait. Jésus, il a une âme humaine qui ne cesse d'adorer son Père. Il y a des gens qui me disent, mon père, j'ai un mal fou à me soumettre à la volonté de Dieu, par exemple. Vous avez quel âge, madame? 55 ans. Ah, mais dis, ça commence à venir, voyez. Vous commencez à comprendre ce que le prêtre dit une fois sur deux avant d'introduire le Notre Père de la messe. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire. Nous ne pouvons dire, Père, que ta volonté soit faite que parce que Jésus nous donne l'Esprit Saint pour que nous puissions le faire. Car à Cambrai, il n'y a pas que des bêtises. Est né à Cambrai un grand théologien, le cardinal de Lubac, qui a bien expliqué dans ses livres que se soumettre à la volonté de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, c'est à la fois naturel et surnaturel. C'est naturel d'aimer Dieu, mais en fait, ça dépasse nos forces. C'est surnaturel. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu sur la terre, pour nous aider à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire par soi-même. Quand on est jeune, on chante « Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable !» Après 30 ans de mariage, « Qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile !» Et les saints, qu'est-ce qu'ils chantent? C'est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Ça, c'est le fin du fin de la vie chrétienne. Ça dépasse nos forces. Donc ne soyez pas étonnés en mûrissant dans la vie chrétienne que vous vous rendiez compte que la prière, le pardon, l'amour sont des choses qui vous dépassent. C'est toute la difficulté d'ailleurs de l'éducation des jeunes. Il faut d'une part leur dire, il faut qu'ils aient confiance en eux. Mais si mon petit bonhomme, tu es capable de faire du sport, des maths, de la musique. Et puis d'autre part, si vous voulez qu'ils deviennent chrétiens, il faut qu'ils découvrent un jour la vérité du mot de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça dépasse vos forces. Ça, c'est le paradoxe de l'éducation chrétienne. Donc Jésus, il a une âme humaine en tant qu'homme, un corps humain et une âme humaine comme la nôtre. Éternellement, Dieu adore Dieu. Le Fils de Dieu, dans son âme humaine, adore Dieu. Le Verbe, en tant que Dieu, il n'adore pas son Père, il l'admire, il est en extase. Mais en tant qu'homme, il se prosterne devant son Père. Quand Jésus priait dans la nuit sur une colline de Galilée, il ne faisait pas semblant de prier. Il priait vraiment. Il suppliait son Père. Il adorait son Père. Et cette adoration, elle ne cesse de se poursuivre. Jésus, il est venu chercher des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Une petite difficulté, c'est que Jésus s'appelle souvent le Fils de l'homme, parce que c'est une expression qui vient du prophète Daniel, et c'était le titre le plus glorieux du Messie. On donnait, avant l'arrivée de Jésus sur la terre, on donnait toutes sortes de noms au Messie. Fils de David, par exemple, ça c'était le plus terre à terre. Fils de l'homme, venant sur les nuées du ciel. Si vous voulez, quand Jésus se présente comme le Fils de l'homme, il se donne le titre le plus grand qui puisse se donner du Messie. Ça demanderait toute une étude exégétique. Donc, je n'insiste pas trop. Donc, en Jésus, c'est un homme, il a une nature humaine, mais ce n'est pas une personne humaine. Et c'est pour cela que Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu. J'ai eu l'occasion pendant les vacances de manger à côté du cardinal Schönborn, celui qui a rédigé le catéchisme de l'Église catholique. Il s'est retiré pendant 6 mois à Venasque, dans les Alpes, pour rédiger ce magnifique chef-d'œuvre en tenant compte de tous les amendements des évêques du monde. Bon, il m'a fait remarquer que les grands théologiens de la Commission internationale de théologie se sont réunis il y a 10 années et tous ils ont signé, y compris le père Balthazar, ce grand théologien de Suisse allemande, que Jésus savait au fond de sa conscience humaine qu'il était le Fils de Dieu. Ne laissez pas dire le contraire. Sinon Jésus aurait été fou, aliéné. Qu'est-ce que c'est qu'un aliéné? C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est. Si vous vous croyez Napoléon et ne vous l'êtes pas, mais vous êtes fou. Vous savez ça? Si Jésus était le Fils de Dieu et qu'il ne le savait pas, il aurait été aliéné, comme quelqu'un qui ne connaît pas son identité. Mais c'est vrai que ça fait partie des petites erreurs ou des grosses erreurs véhiculées ici ou là dans certaines portions de l'Église. Jésus qui serait réveillé le dimanche de Pâques en disant « Ah mince, alors je suis le Fils de Dieu, ah la bonne nouvelle, il aurait pu me le dire plus tôt. » Alors il y a un tas de films ou de livres où Jésus, c'est un homme au ras des pâquerettes, vous voyez, tout à fait comme nous, non. Et c'est pour cela, par exemple, que j'aime beaucoup les crucifix qui osent représenter Jésus souriant sur la croix, parce que tous les saints ont médité ce grand mystère que Jésus était à la fois très douloureux, il a eu une agonie que personne ne connaîtra, et en même temps, au fond de sa conscience, il était le plus heureux des hommes. C'est fondamental ça. Si un jour vous allez à Nazareth, à Jérusalem, vous direz, ici a vécu l'être le plus heureux qui ait jamais... Vous comprenez, quand on se sent... Vous croyez que vous êtes le fils de Dieu, enfant de Dieu. Lui, il l'était au sens fort et il le savait. Ça donne une joie pas possible. Je crois qu'il y a un tas de chrétiens qui ne pensent pas que Jésus a été l'être le plus jubilant qui soit. Je parlais du petit Van tout à l'heure. Jésus lui dit, tu sais, ma vie a été terrible, mais je n'ai pas été triste. Vous chantez, soyons toujours joyeux et prions. J'aime beaucoup ce chant-là. Mais si Jésus nous demande d'être joyeux, c'est qu'il l'a été lui-même. Il ne peut pas nous demander quelque chose qu'il n'a pas vécu. Donc Jésus, un mystère de plus dans ma panoplie, il a connu une très grande angoisse et une très grande joie. Tous les saints ont vécu ça. La preuve d'ailleurs, non, on l'a dans l'évangile. Le seul moment où l'on voit Jésus dire à son père, « Papa chéri », c'est quel moment? Gethsémani. Au moment où il est le plus angoissé, mon âme est triste à en mourir, c'est le seul moment où dans l'évangile où il dit « Papa ». Donc il se réjouit. La petite Thérèse sur son lit de mort, notre Seigneur au jardin des Oliviers jouissait de toutes les délices de la Trinité et son agonie n'en était pas moins cruelle. C'est un mystère, mais je vous avoue que j'en comprends quelque chose par ce que j'éprouve moi-même. Et tous les saints ont médité cela. De même Jésus actuellement, bon, quand vous communiez à Jésus, il est à la fois. Est-ce que vous pensez quand vous recevez Jésus dans la main qu'il est jubilant? C'est l'année du jubilé. Jubile. Je ne sais pas si vous savez, aux dernières nouvelles, il est entré dans sa gloire. Il y en a qui n'ont pas l'air de le savoir. Il a souffert, se pense Pilate, mais il est entré dans sa gloire. Ce qui ne l'empêche pas de compatir à toutes vos souffrances. La preuve, c'est qu'il dira plus tard, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Alors un mystère de plus, vous voyez, c'est pas pour le plaisir. Du coup, j'approfondis ce que j'ai dit tout à l'heure. Les mystères, c'est pas pour le plaisir d'avoir des mystères en plus dans sa tête, mais c'est pour essayer de rendre compte de la beauté du mystère chrétien. Marthe Robin, J'ai vu dans la Croix d'aujourd'hui qu'il y avait tout un article pour rappeler que c'est le 20e anniversaire de sa mort. Marthe Robin, quand elle souffrait, quand elle sentait les stigmates de Jésus revenir en elle toutes les semaines, qu'est-ce qu'elle disait avec sa petite voix inimitable ? C'est Jésus qui souffre en moi, mais Jésus dans sa gloire, comme c'est bien dit. C'est Jésus qui souffre en moi, c'est Jésus qui revit en moi sa passion, mais Jésus dans sa gloire. Jésus, il ne souffre plus. Alors c'est mystérieux, c'est ça, vous voyez ? Le mystère, ça consiste à affirmer deux vérités apparemment contradictoires. Jésus, il ne souffre plus, il est entré dans sa gloire. Le père de Foucault aimait par-dessus tout la fête de l'Ascension, au cours de laquelle on chante la joie de Jésus, entré dans sa gloire. Et pourtant, on doit dire que mystérieusement, il continue sa passion, et l'on peut dire avec Pascal qu'il est en agonie jusqu'à la fin du monde. Je voudrais que vous touchiez du doigt que si l'Église, de temps en temps, elle met au point son vocabulaire, c'est pas pour vous embêter, c'est pour que vous puissiez jouir dans votre prière. Et quand vous savez, par exemple, que Jésus, il est jubilant, ben ça vous fait prier devant le Saint-Sacrement d'une façon tout à fait différente. Quand vous vous ennuyez, par exemple, devant le Saint-Sacrement exposé, qu'est-ce que vous prenez une chaise, vous vous asseyez, et vous dites, Seigneur, je m'ennuie, mais toi, tu ne t'ennuies pas. C'est formidable, ça. Moi, je fais souvent ça dans ma prière. Quand je m'ennuie, je dis... Il y a une vieille religieuse qui disait... Vous savez, mademoiselle, elle disait ça, une jeune convertie. Quand j'ai le mouron dans mon Carmel, je prends une chaise, je m'assieds et je pense que Dieu est heureux. Et le mouron s'en va. On me dit, il y a un tas de gens qui ne croient plus à l'existence de l'enfer. Ben oui, ça fait des hérétiques. Je suis obligé de le dire. Si vous trouvez quelqu'un qui ne croit pas à l'existence de l'enfer, c'est un hérétique. Exemple. Je suis obligé de le dire, dans ce livre-là, qui est un grand succès de librairie en France cette année-ci, il y a un tas de bêtises. Il est mis dans la préface que ça a été écrit par 133 spécialistes bien connus sur le plan international pour leur rigueur scientifique. Je fais partie de ces 133. C'est pour que vous soyez au courant, que vous sachiez avoir l'esprit de discernement. Donc, comme je suis spécialiste de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on m'a demandé de faire 4 pages sur Sainte Thérèse. Mais il y a un imbécile à Paris, je ne vous donnerai pas son nom, ce n'est pas un prêtre, c'est un laïc, qui a eu le pouvoir de trafiquer tous les textes. Et il y a injecté un tas d'erreurs. Et sur 4 pages, il a réussi à injecter 2 erreurs dans mon texte. La première est une erreur historique, et la seconde une erreur théologique qui fait de Thérèse une hérétique. Excusez du peu. Première erreur, Thérèse, elle désirait tellement entrer au Carmel qu'elle a demandé à être reçue en audience privée par Léon XIII. Le gars, il n'a jamais rien lu sur Sainte Thérèse, même pas une bande dessinée, parce que tous les enfants de France qui ont lu une bande dessinée savent que ce n'était pas une audience privée, mais une audience semi-publique. À la page suivante, je rappelle combien Thérèse avait le sens de la miséricorde de Dieu. Le gars, il a ajouté froidement, hein, comme menteur, quelque chose qu'il est incapable de prouver. Donc, tous les pécheurs peuvent parvenir à une très grande sainteté s'ils s'abandonnent avec une entière confiance entre ses bras de père. Mon paragraphe s'arrêtait là. Et lui, de son propre chef, il a ajouté, sans me demander ma permission, « Quand on lui parle de l'enfer, Thérèse ne peut se résoudre à croire que des âmes puissent endurer des souffrances éternelles loin du Dieu d'amour. Elle n'y croit pas et n'hésite pas à le dire, ce qui est un mensonge. » Thérèse dit exactement le contraire. Elle a bien trop confiance en l'infinie miséricorde de Dieu. Thérèse est hérétique. Voyez jusqu'à quel point actuellement on ose nier les vérités les plus fondamentales. Alors j'ai écrit un article dans 2 revues de Lisieux pour montrer que c'est vendu en face du Carmel de Lisieux, ça, dans toutes les librairies catholiques de France. Mais c'est rempli d'erreurs. C'est une honte. Sur Quignon de Montfort, il y a une erreur. Sur le Big Bang, il y a une erreur. Bon. Et ce sont des gens qui disent on va rendre plus accessible le message chrétien en supprimant ce qui est... Il n'hésite pas à inventer. 15 jours avant d'entrer au Carmel, Thérèse écrit à sa sœur, « Oh, si je pouvais, par ma vie au Carmel, aider une âme à être délivrée de l'enfer, qu'est-ce que je serais heureuse ?» Thérèse n'aurait jamais été canonisée et a fortiori nommée docteur de l'Église si elle s'était permis de contester les dogmes de l'Église. Alors voilà, c'est sans doute le plus grand mystère de ma foi. Puisqu'on me pose votre question, j'y réponds. Je commence par y croire uniquement parce que l'Église me dit, tu vois, les 70 fois où Jésus parle de l'enfer dans l'Évangile, eh bien, il faut prendre ça au sérieux. Je commence par y croire. Sur la parole de Dieu, interprétée de façon authentique par l'Église. De même, l'existence du diable. Cet ange déchu, j'ai eu l'occasion d'assister à des exorcismes. Je ne suis pas exorciste diocésain, mais j'ai eu l'occasion d'y assister. Quand on assiste à un exorcisme, je pense qu'on ne peut plus douter de l'existence du diable. C'est absolument évident. Donc j'y crois. Et puis ensuite, j'essaye de réfléchir humblement, tout en sachant que je ne supprimerai pas le mystère. Pourquoi Dieu m'a-t-il fait libre ? Pourquoi ne s'est-il pas arrangé pour qu'on ait une liberté impeccable ? Parce que c'est impossible. On n'est pas à l'image de Dieu ? On est à l'image de Dieu, mais on n'est pas Dieu. En créant des créatures, anges ou hommes, Dieu prenait le risque terrible de créer des êtres capables de lui dire zut. Dieu ne pouvait pas faire des libertés impeccables. Si vous étiez impeccable, mes chers amis, vous seriez Dieu. C'est tout bête comme petite réflexion. Je prépare au mariage un garçon qui s'est trompé pendant 5 ans. Il m'explique qu'il a été fiancé pendant 5 ans avec une autre fille. Bon, et puis au bout de 5 ans, il s'est aperçu que ce n'était pas la fille qu'il lui fallait. Mieux vaut avant qu'après. Pourquoi je me suis trompé, mon père ? Parce que tu n'es pas le bon Dieu. Comme dit Descartes, l'erreur est le signe fondamental que nous avons des intelligences limitées. Pourquoi je ne suis pas le bon Dieu ? Pourquoi je ne suis pas parfait ? Pourquoi ma femme n'est pas parfaite ? Parce qu'elle n'est pas le bon Dieu. Vous savez, il faut parfois toute une vie pour accepter de ne pas être le bon Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu sur terre. Parce qu'à la fin de sa vie, on n'a plus que ça à dire, Seigneur, je ne suis pas parfait, tout solus sanctus, va bene, c'est bien comme ça. Toi seul es Dieu, pas moi. Et c'est tellement difficile à faire ce geste tout simple d'une créature que Dieu lui-même, le Fils de Dieu, s'est fait une créature pour qu'il y ait enfin une créature à accepter sa condition de créature. Je répète, c'est tellement difficile d'accepter d'être une créature, c'est-à-dire d'être capable d'imperfection comme une créature. On n'est pas parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Dieu ne pouvait pas faire d'autres dieux. Il a réussi à engendrer un autre lui-même, je ne sais pas comment il a fait, le Fils de Dieu. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, aussi parfait que lui, il a réussi à engendrer un autre lui-même. Mais il ne pouvait pas créer des milliards d'autres dieux. Ce n'est pas qu'il a voulu se réserver la perfection, il ne pouvait pas. C'est une incapacité en Dieu de créer d'autres dieux. Et c'est la racine du mal. Les anges eux-mêmes ont été créés dans une justice originale extraordinaire. Et il y en a qui ont dérapé, ce sont les démons qui n'ont pas accepté leur condition de créature. Ils n'ont pas péché par vanité, par luxure, par gourmandise, puisqu'ils n'ont pas de corps. Ils ont uniquement péché par orgueil, le péché fondamental de l'être humain aussi. L'enfer, c'est la contrepartie terrible, tragique, de cette création par Dieu d'êtres imparfaits. Alors j'ajoute tout de suite, je le dis dans mon guide des difficultés de la foi catholique, que nous devons croire à l'enfer, mais que nous avons aussi le devoir d'espérer le salut de tous les hommes. C'est pas jésuite au mauvais sens du terme, voyez, hein, c'est pas une entourloupette, c'est là où on voit bien la différence entre la vertu de foi et la vertu d'espérance. Tous les saints, y compris Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui 6 semaines avant sa mort dit encore qu'elle pourrait tomber en enfer, c'est une malhonnêteté. Thérèse dit exactement le contraire. Tous les saints, y compris ceux qui ont une immense confiance en la miséricorde de Dieu, savent qu'ils sont tellement fragiles qu'ils pourraient tomber en enfer. Je suis tellement orgueilleuse, pense Thérèse, au fond de moi-même, que je pourrais très bien rater ma vie. Je compte sur Jésus pour être sauvé. Je crois qu'il y a un tas de chrétiens qui n'ont jamais compris cela parce qu'on ne leur a jamais expliqué. Ils sont pharisiens sans s'en apercevoir. Tu vois, Seigneur, je suis quand même brave. Je consacre tout un week-end à venir à un enseignement au renouveau. Faut quand même le faire. Des crapules autour de moi, il y en a. Seigneur, tu devrais bien t'en occuper. Mais moi, Seigneur, je ne suis pas un saint, mais je suis brave. Cœur sacré de Jésus et confiance en moi. C'est pas ça le christianisme. Les saints, ils savent qu'ils sont très en danger de rater leur vie. Les vrais saints, c'est pas du scrupule, c'est pas des complexes de culpabilité, c'est la sainteté. Le curé d'Ars était persuadé qu'il était plus pécheur que tous ceux qui se convertissaient à son confessionnal. Parce que Dieu lui avait donné un tel flash sur sa misère profonde, sans doute sur son orgueil fondamental, qu'il avait peur de rater sa vie. Il y a une bonne peur de rater sa vie. Il y a une peur panique du diable qui est mauvaise, il y a le scrupule qui est abominable, mais il y a la bonne, comme dirait le père Molinier, il y a le courage d'avoir peur. Seigneur, je suis vraiment pécheur, je ne compte que sur toi. Autrement dit, les chrétiens ne disent pas, Dieu est infiniment bon, donc il n'y a pas d'enfer, donc il ne faut pas s'en faire. Ça, c'est le bonhomme, vous voyez. C'est le brave gars qui croit bien faire, justement, en disant ça. Sainte Thérèse, elle a compris que Dieu était tellement bon qu'il n'y a pas d'enfer. C'est logique, c'est une hérésie. Comme dirait saint François de Sales, le Seigneur conduit au repos les brebis. Les petites brebis solides, il les mène au repos. Mais les agneaux fragiles, il les porte dans ses bras et sur son cœur. Les saints, ils préfèrent être des agneaux fragiles. C'est tout l'esprit d'enfance de la petite Thérèse, justement. Il y a une joie d'être petit, d'avoir besoin de Jésus, parce qu'alors, on est porté dans ses bras. Vive la faiblesse, vive l'enfant qui se sait fragile. C'est ça l'esprit d'enfance, c'est ça la pauvreté évangélique, c'est ça la sainteté. Ah, sur mes vieux jours, j'ai l'impression que j'ai plus que ça à enseigner. Hein? Les saints savent qu'ils sont en danger, mais justement, Jésus, tiens-moi bien. Et donc là, il n'y a plus de danger. Je crois à l'existence de l'enfer comme une possibilité réelle pour tous les hommes, mais j'espère mon salut et le salut du Judas. Et je dis souvent que j'espère être au ciel entre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Hitler, mais un Hitler beaucoup transfiguré, bien sûr. Pourquoi Dieu nous a-t-il laissé la liberté de pécher? Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Une liberté impeccable, c'est une liberté divine. Vous voudriez être le bon Dieu. Je vous comprends, je suis comme vous. Sartre disait déjà ça. Il y a un désir d'être Dieu, un désir d'être parfait chez tout être humain. On voudrait être parfait. Et on est fait pour le devenir, à condition de recevoir sa sainteté gentiment. C'est notre grand problème dans notre prière. Parfois, nous traitons Dieu comme notre chien. Au pied, la santé, la conversion de mon gosse. Au pied. Passe-moi la salière, dit l'enfant à sa mère. Tu pourrais pas la demander autrement? Non. Tu m'as donné la vie, tu dois me donner tout ce qui est nécessaire à ma vie, donne-moi la salière. Non, mon enfant, je t'ai donné la vie, mais je dois aussi t'apprendre à être poli. Bon, passe-moi la salière. Non, mon enfant, le ton n'y est pas encore, le si bémol, s'il te plaît. C'est le père Molinier qui raconte cette parabole pour nous montrer que dans notre façon de parler à Dieu, nous sommes souvent très impolis. Il faut toute une vie pour apprendre à parler à Dieu gentiment, poliment. Seigneur, s'il te plaît. J'étonne parfois mon auditoire quand je dis que Dieu n'a aucun devoir envers nous. Dieu n'a aucun devoir envers nous. Vous avez des devoirs envers vos enfants, sinon, et si vous ne les observez pas, l'assistante sociale vous retire à juste titre l'autorité parentale. Vous ne faites pas votre devoir envers vos enfants. Dieu n'a aucun devoir envers nous. Dieu n'est pas un patron. Les ouvriers ont des droits vis-à-vis de leur patron. Nous n'avons aucun droit vis-à-vis de Dieu. Il veut nous donner la lune, ça c'est évident. Il veut nous donner la plénitude de l'Esprit Saint, son don fondamental, à condition qu'on lui demande gentiment. Vous ne savez pas prier comme il faut, dit saint Paul. L'Esprit Saint vient au secours de votre faiblesse pour apprendre à demander gentiment, s'il te plaît, Seigneur. Ne traite pas Dieu comme ton chien. Traite-le comme Dieu. Parce que Dieu est Dieu. C'est pas qu'il veut se faire respecter, vous voyez. Non, bien sûr que Dieu n'est pas comme ça. C'est un père qui ne demande qu'à être aimé. Mais il ne peut pas nous donner les choses si on ne les lui demande pas comme il faut, comme des créatures, et non pas comme des syndicalistes. L'Église n'est pas un syndicat vis-à-vis de Dieu. Je suis pas du tout contre le syndicalisme, bien sûr, mais c'est... Que pensez-vous du mariage des prêtres pour compenser l'effondrement des vocations sacerdotales? S'agit-il d'un dogme? Eh bien non. Voyez, la preuve d'ailleurs, c'est que pendant des siècles, il y a eu beaucoup de prêtres et d'évêques qui étaient mariés. Il y a des pères de l'Église qui étaient mariés. La législation de l'Église sur le célibat des prêtres dans l'Église latine est quelque chose qui peut changer. Ce n'est pas un dogme. Je crois qu'il faut bien apprendre aux enfants ce qui est dogme et ce qui ne l'est pas. L'Église peut changer sa législation. Il y a des prêtres catholiques en Orient qui sont mariés. Ils doivent choisir pour le célibat ou le mariage avant de recevoir l'ordination diaconale. Alors, pour se montrer aussi des choses amusantes dans l'Église qui change, j'ai une amie qui se prénomme Philomène. Elle était en colère quand l'Église l'a détrônée. C'est une histoire amusante. Au siècle dernier, quand on a redécouvert les catacombes de Rome, on s'est imaginé que tous les ossements de ces catacombes étaient des ossements de martyrs. Alors, un archéologue a trouvé des pièces de marbre. Il s'est imaginé qu'il y avait une Philomène. Il a extrait les ossements de ce loculus des catacombes et il a introduit le culte de Sainte Philomène. Et v'là-t-y pas, comme on dit dans le Nord, et v'là-t-y pas que Pauline Jaricot, celle qui est à l'origine des œuvres pontificales missionnaires à Lyon, une grande sainte, elle a été guérie miraculeusement devant ces reliques de Sainte Philomène. Parce que Dieu peut faire des vrais miracles devant des fausses reliques, non ? Le curé d'Ars, il a été enthousiasmé par cette affaire-là. Il a instauré dans son église une chasse de Sainte Philomène. Et il y a eu un tas de miracles dans l'église d'Ars devant la chasse de Sainte Philomène. Là aussi, de vrais miracles devant des fausses reliques. Et du coup, il y a toutes les petites filles qui naissaient dans le village d'Ars appelées des Philomènes. Et dans tous les monastères du 19e siècle, il y avait des sœurs Philomènes, des sœurs Marie Philomène. C'est une sœur Marie Philomène qui a fondé, par exemple, le premier Carmel au sud-est asiatique, à Saïgon. C'est amusant. Donc, regardez, le curé d'Ars, pendant des années, il a cru que les petits voyants de la Salette étaient des menteurs. On peut être saint et se tromper. Les saints n'ont pas la faillibilité pontificale. Il y a eu un malentendu, il a cru que les petits voyants de la Salette étaient des menteurs. Ils étaient des menteurs. Et du coup, l'évêque de Grenoble s'est fait taper sur les doigts par l'archevêque de Lyon pour avoir autorisé le culte à la Salette. Et puis, à la fin de sa vie, un matin, le curé d'Ars s'est réveillé tout guilleret. Tiens, la Sainte Vierge m'a fait comprendre qu'elle était vraiment apparue à la Salette. Il a changé d'avis. Il ne faut pas être plus catholique que le pape, vous comprenez ? Il y a des gens, tout ce que dit un saint est vrai. Non, un saint peut se tromper. Tout ce que disait le curé d'Ars, ce n'était pas un dogme. Est-ce que vous comprenez ça ? Je crois que c'est très important de voir que l'Église, elle s'est trompée au cours des siècles, heureusement. C'est rare quand l'Église, elle énonce un dogme. Depuis le temps que Jean-Paul II est pape, il n'a jamais énoncé un dogme nouveau. La dernière fois qu'il y a eu un dogme énoncé par l'Église, j'étais là, sur la place Saint-Pierre, le 1er novembre 1950. Puis XII, il a déclaré, d'une façon solennelle, l'Assomption de la Sainte Vierge. Alors là, il aimait la dogme. Il aimait la gomme plutôt. Auctoritate Petri et Pauli declaramus atque definimus Sancta Maria Virginem assuntam essentielum avec les trompettes pontificales. Voilà. Mais quand le pape il fait une encyclique, c'est pas un dogme. Faut pas être plus catholique que le pape. La preuve, c'est que les encycliques sociales de l'Église depuis Léon XIII ont beaucoup évolué. Dès l'école primaire, il faut expliquer aux enfants parce qu'ils seront. Parce que c'est comme ça qu'il y a des jeunes qui perdent la foi. Leur professeur de sixième en histoire, il leur raconte des choses énormes sur l'Église. C'est un pape qui avait la mauvaise idée de s'appeler Innocent au début du XIIIe siècle, qui a lancé la torture dans les procès d'inquisition. Mais ça, ce n'était pas une définition infaillible, heureusement. Parce que la torture à l'époque, c'était. Bon, je peux faire un cours là-dessus, ça paraissait tout à fait normal. Et tous vos enfants savent ça. Et il faut expliquer que l'Église n'est pas infaillible dans tous ses discours. On y reviendra éventuellement demain. Pour les aider dans leur foi, pour les aider à cheminer. Je voudrais terminer en vous montrant à quel point, mes chers amis, la jubilation, on est dans les jubilés, elle dépend de la foi. La joie, ça dépend de la foi. D'où l'importance d'avoir une foi solide. Et j'aime dire cela au renouveau, aux membres du renouveau. Parce qu'il y en a parfois qui ne comprennent pas bien ça. Vous savez que la joie, j'aime beaucoup parler de la joie, est un fruit de l'Esprit Saint. chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Les fruits de l'esprit, c'est la joie, la paix, la longanimité, la maîtrise de soi, etc. Seulement, et j'aime beaucoup chanter aussi « La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus ». Seulement, l'Esprit Saint ne produit ce fruit de paix et de joie dans votre cœur que en y faisant retentir des paroles de la Bible, de Jésus. Jésus n'a pas dit à ses apôtres, les enfants, « Je m'en vais, vous pouvez oublier tout ce que je vous dis, je vais vous envoyer l'Esprit Saint qui va vous donner directement la joie dans le cœur. Vous prierez l'Esprit Saint et vous aurez la joie. » Voilà. Ça, c'est pas le renouveau, c'est l'illuminisme qui a toujours existé dans l'Église. C'est une déformation du renouveau. Je vous dis, la bibliothèque qui est derrière moi est un bon signe que le renouveau, c'est pas ça. Jésus n'a pas dit « Oubliez tout ce que je vous dis et je vais vous donner l'Esprit Saint qui vous donnera la joie directement du producteur au consommateur. » Voilà. Non. L'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint vous conduira vers la vérité tout entière. La troisième personne de la Sainte Trinité ne chahute jamais la deuxième personne de la Sainte Trinité. L'Esprit Saint vient nous faire comprendre, vient nous rappeler, nous faire comprendre, nous faire aimer, nous faire saisir, nous faire goûter, nous faire savourer les paroles de la Bible. Toute la raison de la joie chrétienne se trouve dans ce petit bouquin. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez une raison objective d'être triste, et Dieu sait s'il y en a dans votre vie, vous ne dites pas, hey, c'est ça le problème, c'est comme ça qu'il y a des gens qui quittent le renouveau. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'Église. On leur dit qu'il suffit de prier pour avoir la joie. Alors ils vont à l'Église, « Seigneur, donne-moi la joie, Seigneur, donne-moi la joie. » Seigneur. Et puis ils sortent de l'Église, ils sont toujours aussi en pépette contre leur belle-mère. Ils disent « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils s'imaginent qu'ils confondent religion et opium. L'Esprit Saint viendrait nous enlever toutes nos difficultés. Un coup de baguette magique, je vais prier, plus de problème. Je viens de séance du renouveau, plus de problème. Je suis joyeux, chante Alléluia. Ah, tiens, tiens. Alors ça dure ce que durent les roses, mais ça ne dure pas. Non, l'Esprit Saint, tel que l'Église a toujours enseigné, tel que le renouveau le vit, c'est il vient nous faire comprendre les raisons que Jésus nous a données d'être joyeux. Et des raisons qui sont mystérieuses, qui sont justement des dogmes. Des choses non évidentes, incroyables, mais vraies. On pourrait terminer toutes les homélies comme ça. Incroyables, mais vraies. À certains moments, vous avez l'impression de ne pas faire le poids. Les gens ne vous regardent pas. Vous comptez pour du beurre, comme disent les enfants. Quand vous racontez une histoire, on ne rit pas. Bon, je n'ai pas beaucoup de valeur. Eh bien, je me rappelle, l'Esprit Saint va me rappeler une parole qui se trouve dans le chapitre 13 de la première aux Corinthiens et qu'on écoute dans une messe de mariage sur deux ou sur trois. Ce qui compte, c'est pas de savoir parler devant un micro, c'est pas de faire des bouquins sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce qui compte, c'est d'aimer. Donc, la personne qui réussit le mieux sa vie dans cette petite assemblée, c'est pas celle qui sait le mieux parler, c'est pas celle qui chante le mieux. C'est celle qui aime le plus, c'est le secret de Dieu. C'est fondamental ça, c'est une raison de rester joyeux lorsque vous avez l'impression de ne pas être important aux yeux des autres. C'est pas celle qui est le mieux vue, c'est pas celle dont le groupe de prière est le plus fervent, le plus gros, non, c'est celle qui aime le plus. C'est Dieu qui le dit, c'est évident que c'est pas évident. Aux yeux du monde, c'est pas ça. Ça peut être une personne qui est divorcée, par exemple. C'est pas forcément la famille nombreuse, la belle famille chrétienne de 8 enfants, 2 sont jésuites, 2 sont entrés dans les communautés de l'Emmanuel, une autre chemin neuf, voyez, ça c'est... Vous voyez ? C'est peut-être le cas d'une famille que je respecte et qui est ici, vous voyez ? Je me méfie. Non ? Parce que ce qui compte, c'est d'aimer. Et donc, par le mystère de la communion des saints, il y a peut-être quelques personnes ici qui sont divorcées, mais qui offrent leur sacrifice à Dieu, qui conservent le sourire au milieu de cette épreuve, et qui méritent pour d'autres couples la grâce de bien élever leurs enfants. Quand je fais un week-end pour couple sans enfants, j'insiste beaucoup là-dessus. N'avez pas d'enfants? Vous êtes comme Raoul Follereau et Madeleine Follereau, qui n'ont jamais eu d'enfants, ou comme le roi Baudouin et la reine Fabiola. Vous souffrez de cette stérilité? C'est une souffrance qui ne guérira jamais complètement, même si vous adoptez des enfants. Mais si vous ne râlez pas, si tout en souffrant, vous dites « Seigneur, je continue à croire que tu m'aimes », eh bien, vous méritez des grâces extraordinaires pour d'autres enfants. Et je suis persuadé que dans le ciel, il y aura des centaines et des centaines d'enfants qui s'agripperont au cou de ces couples sans enfants en disant « Papa, maman, merci, c'est grâce à vos sacrifices que nos parents nous ont si bien élevés ». C'est ça la communion des saints. Mais c'est évident que ce n'est pas évident. Un mystère de plus dans ma panoplie. Quand vous avez l'impression d'être seul, il y a peut-être ici des célibataires qui sont souvent les grands oubliés de nos communautés, de nos prières universelles. Tu vois ça dans les églises, on prie pour tout le monde, les vocations sacerdotales, religieuses, les divorcés remariés, et, très bien, bon, et les célibataires. Tous ces garçons et toutes ces filles qui auraient bien voulu trouver une chaussure à leurs pieds, c'est pas gentil d'ailleurs pour le conjoint de dire des chaussures, mais enfin c'est comme ça qu'on dit. Alors c'est vrai qu'on peut demander ça à Dieu. La fin dernière, je recevais une demoiselle qui n'était plus toute jeune et qui vient me trouver comme ça dans mon bureau à la fin d'une année scolaire, qui se plaint de ne pas être encore mariée. Et alors je l'écoute. Elle se confesse de ses manques de confiance en Dieu. Et je lui donne comme pénitence, eh bien, vous pourrez dire, donne-moi Seigneur, mon mari quotidien. Elle sort de mon bureau et un quart d'heure après, elle rencontrait son mari quotidien dans les rues de Douai. Et je ne suis pourtant pas une agence matrimoniale. Je me suis contenté de célébrer le mariage un an plus tard. Alors ça ne marche pas à tous les coups, hein. Alors elle avait bien compris que ça ne voulait pas dire à Marie qu'on change tous les jours, voyez, Marie quotidien, non, non. Je rigole, mais je n'ai pas du tout envie de rigoler de ces choses-là, parce que c'est terrible. J'en ai aidé plus d'une à ne pas se précipiter dans un mariage, parce que je dis, il vaut mieux rester célibataire que d'être divorcé. Il y en a qui seraient prêtes à prendre n'importe quelle partie pour échapper à leur célibat. Puis c'est très bizarre, c'est parfois la fille la plus dégourdie de la famille qui n'est pas mariée. C'est très curieux. Et il y a des filles, on se demande comment elles se marient. Elles sont tellement peu dégourdies, quoi, c'est vrai. Non, mais je vois ça. Et puis la frangine qui a un punch terrible, elle reste sur le carreau. C'est terrible. Non, mais vous riez, mais c'est parce que vous riez parce que vous n'êtes pas dans ce cas-là. Ça doit être ça. Donc je me sens seul. Je rentre dans ma maison, je me sens seul. Entre parenthèses, hein, chers confrères, quand je prêche une retraite sacerdotale, je dis « De grâce, n'en rajoutez pas à la fin de la messe. » Ça devient maintenant à la mode. « Allez mes frères, bonne réunion familiale, bon Noël en famille, vous retournez le fer dans la plaie. » Et tous ceux qui vont retourner tout seuls chez eux, n'en rajoutez pas, allez dans la paix du Christ. Ceux qui passeront une bonne semaine, une bonne journée familiale, c'est pas besoin de le leur dire. Mais les autres, il y a des gens qui ne viennent plus à la messe à cause de ça. J'étais aumônier national des équipes Notre-Dame pendant 7 ans. Je suis plutôt pour les couples chrétiens, je suis pas du tout contre. Mais il n'y a pas qu'eux, il y a tous les autres. Ceux qui retournent chez eux tout seuls ou chez elles toutes seules, eh bien elles doivent se rappeler une parole de l'Évangile, une raison d'être joyeux quand même. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Des milliards de chrétiens depuis 20 siècles se sont rappelés ce petit verset de l'Évangile selon saint Jean pour vivre leur solitude. On n'est pas tout seul, on est habité par Dieu. Ah, mon père, c'est pas évident. Ah ben oui, madame, c'est évident que c'est pas évident. D'accord. La foi, ça sert à croire des choses non évidentes. C'est pour ça que je parlerai de la foi demain. D'où la question très intéressante, comment se fait-il que Dieu ne donne pas la foi à tout le monde? C'est la première question que je pose dans mon gros livre. Parfois, j'ai l'impression que je suis très, très jaloux des autres. Je suppose que ce soit Jean Vanier qui fasse sa conférence ce soir. Cet homme qui dégouline de charité, le fondateur de l'Arche. Je pense que vous vous sentiriez tous bien petits par rapport à la charité de Jean Vanier. Ou bien Mère Teresa, si elle n'était pas morte. Quand je suis pris d'une sainte jalousie comme ça, vis-à-vis d'une personne qui semble me ravaler à un rang inférieur, j'ai encore une vérité que je vais chercher dans ma Bible et dans ma tradition chrétienne. Et donc si vous êtes jaloux de quelqu'un d'autre qui vous semble plus vervant que vous, vous êtes bête. Est-ce que vous dites de temps en temps ça dans vos confessions? Mon père, j'ai été bête. Un adjectif très évangélique que Jésus emploie souvent. Esprit sans intelligence, dit-il à ses apôtres. Vous en êtes encore là? Pourquoi c'est une bêtise? Parce que la charité de Jean Vanier, d'une mère Teresa, elle vous appartient dans le mystère de la communion des saints. Vous n'y pensez peut-être pas, mais vous le faites tous les jours à la messe. Par Jésus, avec lui et en lui, vous offrez à Dieu toute la générosité du monde. Vos conversations changeraient du tout au tout si vous y pensiez. Vous avez vu les conversations dans le monde? Ah, cette personne, elle est bien, elle fait le catéchisme. Elle fait un peu ça pour se faire remarquer. Hein. Oh, elle est visiteur de prison. Oui, mais avec l'éducation qu'elle a reçue, c'est pas gêné. Hein. Elle est bergère d'un groupe de renouveau. Oui, mais c'est des petites bêtes. Hein. On ne supporte pas que les gens soient bien. Parce qu'on a l'impression que ça nous ravale à un rang inférieur. Et le jour où on comprend ce que je viens d'expliquer, on est tout heureux de trouver quelqu'un de bien autour de soi, parce que c'est un bien de famille. La sainteté de cette personne, elle m'appartient. Pourquoi la jalouser? Par le Christ avec lui et en lui, je peux offrir toute la sainteté du monde. Et je fais alors comme le ravi de la pastorale des Santos de Provence, qui passe son temps à admirer ce qui se fait de bien dans le monde. Mon Dieu, que c'est beau le meunier qui se met à travailler. Un sac de farine sur la tête, un sac de farine sous le bras droit, un sac de farine sous le bras gauche. Mon Dieu, que c'est beau. On se met à regarder le monde autrement. Au lieu de jalouser bêtement la sainteté des autres, on s'empare de tout cela pour l'offrir à Dieu. Vous voyez, j'ai des raisons d'être joyeux. Trop, c'est trop. Ah, mon père, non. Là, bon Dieu, il exagère. Qu'est-ce que je vais répondre à ça? J'ai une réponse dans la Bible. D'abord, j'ai le droit de dire ça. Il y a un tas de psaumes où on dit « Seigneur, j'en ai ras-le-bol ». Traduction un peu large de « Les eaux me submergent la tête ». Non, vous avez le droit de dire « Des profondeurs, là, ma vie a été dominée. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur ». Vous avez le droit de crier vers Dieu votre détresse. Mais à condition d'écouter ensuite le Seigneur vous dire, par l'intermédiaire de saint Paul, 1 aux Corinthiens, chapitre 10, Dieu ne permet pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Voilà un petit verset qui a aidé des milliards de chrétiens à ne pas rester à l'impression que trop c'est trop. C'est vrai, humainement trop c'est trop. Le Seigneur, il exagère. Je pense à cette personne qui vient de perdre son mari et je lui ai rappelé en lui envoyant mes condoléances ce qu'elle m'avait dit il y a des années. C'était même au chevet de mon père qui venait de mourir, c'est une petite cousine. J'ai bien accepté la mort de mes trois premiers enfants, mais le quatrième, j'accepte plus. Je dis, Denise, c'est normal. T'as le droit de te révolter comme ça dans un premier temps. Seigneur, je comprends pas, trop c'est trop. Mais dans un deuxième temps, on écoute le Seigneur nous dire, ne dis pas trop c'est trop, parce que je m'arrange pour que tu ne sois pas tenté au-delà de tes forces. C'est comme ça. La foi chrétienne, la joie chrétienne s'enracine dans des convictions, pas des impressions. Vous avez un tas de gens qui vivent d'impressions. Il y a quelques années, j'ai souffert d'un zona ophtalmique. C'est pas grave, mais ça vous fait souffrir pendant 2 mois. Donc je me tenais la tête pendant 2 mois en disant « Seigneur, ta tendresse est sans mesure ».